Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens en ce 17 janvier 2018. Déjà la mi-semaine, mercredi, ça va vite, je trouve, enfin. Hélène Denis qui vous accompagne. Jean-Sébastien, est-ce que vous trouvez que la semaine passe vite?
Je trouve que toutes les semaines passent vite.
Oui, mais il me semble quand on revient d'un congé puis qu'on a une semaine de 4 jours, la semaine paraît très, très longue.
Oui.
Puis là, les semaines de 5 jours, oui. Ça me semble
les semaines
que
de 5 jours passent plus vite que les semaines de 4 jours, c'est très vrai. Oui. C'est un phénomène inexpliqué encore.
Non, j'aimerais ça que quelqu'un m'explique, mais ça ne sera pas vous.
Hein? Non, ça dépasse mes zones de compétences.
Et ça sera pas moi non plus. Mais vous êtes compétent pour plein de choses, entre autres pour animer cette chronique éphémérique.
Et en ce 17 janvier, sous le signe de la pizza et du spaghetti, qu'on vous souhaite bien bon et bien chaud d'ailleurs, en cette journée internationale de la cuisine italienne.
Oh.
Donc pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, bon appétit.
Oui.
Sinon, 17 janvier 1694, Jean-Baptiste de la Croix de Chevrière de Saint-Vallier, évêque de Québec, décrète qu'il est péché de voir des spectacles corrupteurs et impurs comme Tartuffe de Molière.
À l'index.
Autre temps, autre mœurs. 17 janvier 1605, première publication de Don Quichotte, roman bien sûr de Miguel de Cervantes. 1773, le Resolution, le navire de James Cook, premier navire à franchir le cercle arctique. Et avec les froids qu'on connaît ces temps-ci, je ne peux qu'être en admiration envers ces hommes et ces femmes qui explorent et vont dans des contrées bien lointaines et souvent bien froides. 1793, vote sur la mort de Louis XVI. 17 janvier 1861, le brevet pour les toilettes à chasse d'eau est déposé par un certain monsieur, et je vous donne son nom en mille, Thomas Crapper. 1912, l'équipe de Robert Scott atteint le pôle sud et c'est ça, donc réalisant en atteignant le pôle sud que l'équipe du Norvégien Roald Amundsen l'avait devancé d'un mois, cet équipage finira par mourir de froid au pôle sud, triste fin. 1916, formation de l'association des golfeurs professionnels. 1929, première publication de la bande dessinée mettant en vedette Popeye le marin. 17 janvier 1950, spectaculaire vol de la Brinks, un des grands crimes du siècle dernier. 1957, le Bonaventure, unique porte-avions de l'histoire canadienne, est mis en service à Belfast, en Irlande du Nord. Catégorie, ça aurait pu être pire. 17 janvier 1966, en Espagne, collision entre un Boeing B-52 américain et son avion de ravitaillement. Boeing B-52 étant un avion de type bombardier. Non pas la compagnie, mais qui a des bombes à son bord. Donc, accident, collision entre les deux. Il y a eu 8 morts et l'avion perd ses bombes à hydrogène dans les eaux de l'Atlantique.
Quand donc, vous dites que ça aurait pu être pire...
Ça aurait pu être une catastrophe énorme.
Ouais.
1970, Robert Bourassa devient chef du Parti libéral du Québec. 1972, grève des contrôleurs aériens du Canada qui durera 10 jours. 1984, à Washington, la Cour suprême statue que la copie privée d'émission avec un magnétoscope ne viole pas la loi du droit d'auteur. Donc, une pratique qui est quelque peu désuète avec l'avènement de la technologie.
C'est le moins qu'on puisse dire.
17 janvier 1986, le président Ronald Reagan signe un document secret autorisant la vente d'armes à l'Iran, ce qui provoquera, on s'en doute, un scandale. 1991, l'aviation américaine bombarde Bagdad, amorçant l'attaque pour libérer le Koweït envahi par l'Irak. 17 janvier 1994, grand tremblement de terre de Los Angeles, 57 morts, 30 milliards de dollars de dégâts. 1995, même jour, donc un an jour pour jour, grand tremblement de terre, cette fois au Japon. Cette fois-ci, 6400 morts et le double en dégâts, 60 milliards de dollars. 1998, encore un 17 janvier, témoignant dans la cause pour harcèlement de Paula Corbin Jones, Bill Clinton nie sa liaison avec Monica Lewinsky.
20 ans!
Déjà, ce mensonge lancera contre lui une campagne judiciaire qui durera plus de 13 mois. Et 17 janvier 2013, en entrevue avec Oprah Winfrey, le cycliste américain Lance Armstrong reconnaît s'être dopé. C'était il y a 5 ans aujourd'hui. Anniversaire en l'an 395.
Qui est né.
Pardon. En fait, non, ça, c'est un décès, donc j'y reviendrai. Naissance du physicien, pamphlétaire et homme d'État Benjamin Franklin à Boston en 1706. Naissance de la chanteuse Dalida au Caire en 1933. De Cassius Marcellus Clay, autrement connu comme Mohamed Ali, le boxeur, bien sûr, né le 17 janvier 1942. Françoise Hardy, née en 1944. Et l'acteur canadien Jim Carrey, né en 1962. Les décès, cette fois, et pour cette fois, l'an 395, mort de Théodose Ier, le grand dernier empereur de l'Empire romain unifié. En 2008, décès de l'ancien champion d'échecs d'origine américaine Bobby Fischer. 2006, Dr Pierre Grondin, premier cardiologue à avoir réalisé une greffe au cœur au Canada. Et finalement, 17 janvier 1879, décès du poète et libraire canadien Octave Cremazie.
Toute une chronique. Merci, Jean-Sébastien.
Avec plaisir.
À la une de la presse, Parti québécois, pourquoi ils partent? Cloutier, Maltais, Léger, le chef du PQ, Jean-François Lisée, a vu hier trois de ses députés les plus connus annoncer leur retrait de la vie politique. Que cache cette cascade de départ en cette année électorale? Les réponses de notre chef de bureau à Québec. La presse à Washington, Trump un an plus tard dans l'antichambre de la Maison-Blanche. Art, exposition, une Japonaise de 88 ans fait vibrer Toronto. Et la chronique de Patrick Lagacé, intitulée « Travailler fort dans les coins comme Steve Bégin ». Et dans la mise à jour, dernière heure, Grand Montréal, les blocs de béton de la Formule E serviront lors des inondations. Les blocs de béton achetés pour la Formule E pourraient être utilisés pour servir de digue en cas d'inondation. C'est ce qu'on apprend sous la plume de Pierre-André Normandin. Lors d'une présentation sur le bilan des inondations du printemps 2017, la mairesse Valérie Plante a indiqué que l'arrondissement Ville-Marie avait développé une idée pour améliorer les interventions en cas de crue subite. Ce serait de faire des digues amovibles avec des blocs de béton. Ça tombe bien, on en a des barrières de béton en stock, ça pourrait être réutilisé, a-t-elle dit. Plusieurs élus ayant pouffé de rire à ce moment, la mairesse a précisé que l'idée avancée par l'arrondissement n'était pas une blague. On rit, mais c'est vrai. Peu après son arrivée au pouvoir, l'administration a décidé d'annuler la présentation de la course de Formule E en raison des coûts exorbitants pour la présenter 2 ans encore. Du coup, la métropole s'est retrouvée avec 1 500 blocs de béton sans utilité, ceux-ci ayant été achetés pour servir de muret de protection lors des courses. Le contrat d'achat se chiffrait à 7,5 millions. Les sacs de sable ont fait leur temps, a notamment conclu le service des incendies de Montréal dans son bilan des inondations. Pas moins de 300 000 sacs ont été mis en place durant la crue et leur retrait s'est avéré problématique. En effet, la métropole se considère comme chanceuse puisque le mandat de l'armée avait été prolongé, ce qui avait permis aux soldats de contribuer à leur ramassage et au nettoyage. Mais en temps normal, il revient aux autorités locales de s'occuper de cette phase. Or, les employés étaient épuisés à la suite des mesures d'urgence pour limiter les dégâts. La Ville de Montréal dit ainsi être à la recherche d'une solution technologique pour faciliter le déploiement de digues temporaires, mais aussi leur enlèvement. Un responsable à la sécurité civile confirme que l'idée de digues déployables est à l'étude. Il pourrait s'agir de digues faites en polyester, par exemple. Mais les digues ne régleront pas tout et la Ville dit étudier plusieurs scénarios pour réduire l'impact des inondations. Il faut trouver un modèle montréalais. On ne peut pas penser qu'on peut gérer les inondations juste avec des digues, a exposé une fonctionnaire responsable. La vieille garde se rend. Denis Lessard, une collision sur la question référendaire, un affrontement sur un virage identitaire, pas du tout. L'hémorragie qui a frappé hier le caucus péquiste a une source bien plus triviale. Les élus sont désormais convaincus que leur parti ne formera pas le prochain gouvernement. Plus encore, plusieurs savent qu'ils seraient battus s'ils se portaient à nouveau candidats. Depuis le séisme des élections générales de 2007, le syndrome du troisième étage s'est inscrit dans la mémoire collective des péquistes. Les députés, alors dirigés par André Boisclair, s'étaient retrouvés comme deuxième parti de l'opposition, relégué au comble du Parlement, confiné à une enfilade de bureaux minuscules au plafond mansardé. Avec cette déconvenue, la série des humiliations quotidiennes, le personnel limité, les budgets exsangues, le temps de parole réduit. Devant la cascade des annonces de départ au PQ, on a décidé de demander à tous ceux qui prévoyaient partir de le faire savoir dès maintenant. Pas question d'égrener sur plusieurs jours ces nouvelles négatives. Derrière chacun des cinq départs prévisibles, une histoire différente. Pour l'un, c'est l'achèvement naturel d'une longue carrière. Pour l'autre, l'occasion de faire un pied de nez au chef. Un autre aura l'occasion de se défiler avant un combat douteux prédit parmi les sondages. En coulisses, certains s'excitent autour d'un éventuel retour de Pierre-Carl Péladeau. Il faut dire que, par ses tweets, le patron de Québécois ne laisse pas de doute et s'ennuie de la politique. Mais les questions familiales qui ont forcé sa démission sont toujours là. Surtout, il semble réfléchir tout haut, n'a pas de plan précis pour reprendre du service. On conjecture sur les apparatchiks qui feraient des messes basses, prépareraient un putsch si Lisée ne parvient pas à corriger le cap d'ici Pâques. Si c'était sérieux, la garde rapprochée d'Alexandre Cloutier en aurait été informée. Or, il n'en est rien. La CAQ relance sa promesse d'abolir les commissions scolaires. La session parlementaire n'est pas encore commencée que les partis politiques aiguisent déjà leurs premières armes électorales. À quelques mois du scrutin, la coalition Avenir Québec relance sa promesse d'abolir les commissions scolaires en publiant un plan de gouvernance scolaire. On y explique notamment comment les convertir en un nombre identique de centres de services aux écoles, tout en confiant au ministre de l'Éducation la responsabilité de fixer le taux de la taxe scolaire. En entrevue avec la presse, le porte-parole du deuxième groupe de l'opposition en matière d'éducation, Jean-François Roberge, martèle que sa formation politique est prête pour l'après-commission scolaire. Il accuse ces institutions de souffrir de problèmes de gouvernance qui limitent la capacité d'agir des directions d'école en plus de constituer un obstacle à l'obtention de services pour les élèves. Ça va se faire graduellement. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. En 2014, lors des dernières élections, son chef promettait d'ailleurs leur abolition, prévoyant la création d'une trentaine de centres de services pour les remplacer. À l'époque, la CAQ souhaitait également abolir la taxe scolaire. 4 ans plus tard, on se fait désormais plus prudent. À Grille-Dufresne, 4 000 arbres du Mont-Royal seront abattus. Près de 4 000 arbres devront être abattus sur le Mont-Royal d'ici un an en raison de l'épidémie de la Grille-Dufresne. Le nouveau responsable des parcs, Luc Ferrandez, espère que Montréal tirera les leçons de ce triste épisode et interviendra plus tôt à l'avenir pour protéger ces espaces verts. « C'est beaucoup, ça va paraître », dit Luc Ferrandez, responsable des grands parcs au sein de l'administration Plante. Celui-ci ajoute toutefois que cette coupe ne sera pas aussi visible que les 1000 arbres abattus au parc Jean Drapeau pour faire place à un amphithéâtre puisque ceux-ci sont dispersés sur tout le Mont-Royal où l'on compte plus de 100 000 arbres. La coupe de ces 4 000 arbres est jugée inévitable en raison des dégâts causés par la Grille-Dufresne, cet insecte ravageur détecté pour la première fois à Montréal en juillet 2011. L'abattage se réalisera en deux phases. D'ici le 31 mars, 1 500 frênes seront abattus, puis entre septembre 2018 et mars 2019, les 2 300 autres seront abattus. C'est l'entreprise Arboriculture de Beauce qui a décroché ce contrat pour une somme de 1,1 million, soit 8 % de moins que l'estimation de la ville. Les 4 000 arbres qui disparaîtront seront remplacés par 40 000 plantes que la ville prévoit faire rapidement pour éviter qu'une espèce envahissante ne prenne la place. une veillée à la mémoire du père Pops, qui s'est éteint dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 89 ans, se tient ce soir à la place Émilie-Gamelin de 17h à 19h. Le premier ministre Philippe Couillard et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont déjà confirmé qu'ils seraient de la cérémonie. Un représentant du gouvernement fédéral doit aussi y être. Le public pourra également se recueillir les 25 et 26 janvier à l'Hôtel de Ville de Montréal, où la dépouille du père Emmett Jones sera exposée. Enfin, le fondateur de l'organisme Dans la rue sera porté à son dernier repos le samedi 27 janvier. À la basilique Saint-Patrick, l'heure reste à confirmer.
Mieux que partout ailleurs, au jardin de mon cœur, une petite fleur. Cette fleur, plus jolie qu'un bouquet, elle le garde en secret. Tous mes rêves d'enfant, l'amour de mes parents, et tous ces clairs matins, faits d'heureux souvenirs lointains. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur, sur mes 20 ans. Je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé. Dans mon cœur, tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Petite fleur.
Et c'était Jean Leloup qui se réappropriait Petite Fleur, cette version étant extraite de son album Le Dôme de 1996, mais bien sûr Petite Fleur, Henri Salvador, 1959.
À la une du Devoir de ce mercredi 17 janvier, les producteurs de marijuana pourront bénéficier de tarifs préférentiels d'Hydro-Québec électricité, donc tarifs préférentiels aux producteurs de marijuana. Le rabais offert aux serristes en 2013 visait à soutenir la politique de souveraineté alimentaire. Les départs se multiplient au Parti québécois. Le chef péquiste Jean-François Lisée accompagnait Nicole Léger mardi quand elle a confirmé qu'elle ne sollicitera pas de nouveau mandat. Agnès Maltais et Alexandre Cloutier ont fait de même, tandis que François Gendron et Claude Cousineau annonceront incessamment leur retrait de la vie politique. Et à ce sujet, je vais vous lire la chronique de Michel David intitulée « L'hémorragie ». Punir les fautifs. Le nouveau commissaire à l'éthique à Ottawa veut mettre à l'amende ceux qui fautent. S'adapter à l'automatisation du travail, une étude mesure l'impact des changements technologiques. Faillite en perspective. L'offre de règlement que la Biennale de Montréal a présentée à ses créanciers a été rejetée. La chronique de Michel David intitulée « L'hémorragie ». Que François Gendron prenne sa retraite après 41 ans de service, cela fait sans doute partie de cette transition naturelle en politique qu'a évoqué Jean-François Lisée. On peut aussi comprendre que Nicole Léger avait le sentiment d'arriver au bout du rouleau. Qu'Alexandre Cloutier quitte le PQ à 40 ans n'a cependant rien de naturel. Tout le monde avait constaté que le deuxième échec du député de Lac-Saint-Jean en autant de courses à la chefferie avait laissé des séquelles, mais il semblait avoir retrouvé un peu de son allant dans son rôle de porte-parole en matière d'éducation. M. Cloutier ne vient certainement pas de découvrir la partisanerie qui caractérise la vie politique au Québec comme ailleurs. Si le PQ avait le vent dans les voiles et que la souveraineté n'avait pas été placée sur une voie de garage, elle lui aurait sans doute été plus facile à supporter. D'ailleurs, s'il la trouvait si intolérable, il n'évoquerait pas déjà la possibilité d'un retour. Lac-Saint-Jean fait partie de la poignée de comtés que le PQ pourrait conserver si les résultats de la prochaine élection ressemblent à ceux des récents sondages, mais être simplement le rescapé d'un naufrage ne laisse pas entrevoir des perspectives très réjouissantes dans une législature. Ses relations avec Jean-François étaient demeurées cordiales, a-t-il assuré. C'est bien le moins que le chef du PQ n'ait pas accablé son malheureux rival. C'est cependant un secret de polichinelle que les deux hommes avaient de profondes divergences, notamment sur les questions identitaires. Même si Agnès Maltais a annoncé son départ en rendant un vibrant hommage à M. Lisée, il n'en est pas moins de mauvais augure pour le PQ. Pendant 20 ans, elle a persévéré dans Taschereau contre vents et marées. Sans elle, il pourrait tomber lui aussi aux mains de la CAQ grâce à Québec solidaire qui ne cesse de gruger la base péquiste. Quant à Nicolas Marceau, à qui on prête aussi l'intention de ne pas se représenter, ses chances de conserver sa circonscription de Rousseau située en plein Kakistan semblent infimes. Son collègue de Bertrand, Claude Cousineau, dont le départ est également anticipé, ne peut pas être beaucoup plus optimiste et d'autres doivent actuellement faire le même calcul. À l'aube d'une année électorale, il est normal que certains annoncent leur retraite et la tenue d'élections à date fixe leur impose de le faire dans un délai raisonnable. Il y aura aussi des départs au PLQ, mais cette bousculade vers la sortie du PQ donne une impression d'hémorragie qui n'est pas de nature à faciliter le recrutement de candidats de calibre. Quelle conclusion Jean-Martin Hossan tirera-t-il de tout cela? Dans l'hypothèse d'un retour au PQ, l'ancien chef d'Option nationale tenait à se présenter dans une circonscription montréalaise et le départ de Nicole Léger libéra Pointe-aux-Trembles, où elle l'avait emporté avec 5 329 voix de majorité sur la CAQ en 2014. Jean-François Lisée, qui n'a plus rien à perdre, est certainement prêt à dérouler le tapis rouge pour l'accueillir et même à le laisser dire tout ce qu'il voudra. Ceux qui ont été démobilisés par le report du référendum pourraient voir dans son retour un signe que tout n'est pas perdu. La question est plutôt de savoir si M. Hossan jugera personnellement avantageux d'embarquer sur un navire en perdition. Après avoir quitté le PQ pour fonder son propre parti, il y reviendrait vraisemblablement avec l'objectif de le diriger et les chances que Lisée survive à la prochaine élection sont pour le moins incertaines. À moins que M. Hossan ne décide de faire table rase, de fonder un nouveau parti et de tenter de bâtir une nouvelle coalition avec Québec solidaire. Qui sait? Cela redonnerait peut-être à Alexandre Cloutier le goût de la politique. Quelles que soient ses intentions, l'Assemblée nationale ne serait pas un mauvais point de départ et aller au front avec ceux qu'il a jadis laissé tomber ne peut que servir ses aspirations. Comme les tomates, les concombres et les plantes, le cannabis qui sera cultivé en serre permettra aux producteurs qui le développent d'obtenir un tarif avantageux auprès d'Hydro-Québec grâce au type d'éclairage qu'ils utilisent, a appris Le Devoir. Les producteurs de cannabis, qu'ils soient à des fins médicales ou récréatives, auront droit à l'avantage tarifaire s'ils utilisent de l'éclairage de photosynthèse, confirme Marc-Antoine Pouliot, porte-parole d'Hydro-Québec. Lorsqu'ils adhèrent à l'éclairage de photosynthèse, poursuit-il, on parle ici de M. Pouliot, les clients ayant une puissance d'au moins 400 kW paieront 5,53 $ par kWh. Les deux producteurs autorisés par Santé Canada qui font actuellement du cannabis à des fins médicales ont déjà droit à ce tarif-là, ajoute M. Pouliot. À titre comparatif, un abonné résidentiel d'Hydro-Québec paie présentement 5,82 $ par kWh pour les 33 premiers kWh facturés. Les suivants grimpent à 8,92 $ l'unité. 4 mois après avoir changé de grand patron, refinancé sa dette et abaissé certaines cibles financières, Page Jaune élimine 500 postes, environ 18 % de son effectif, dans ce qui pourrait être l'un de ses ultimes efforts pour continuer à rivaliser avec des géants numériques. Effectif immédiatement, ces licenciements annoncés mardi s'ajoutent aux 300 annoncés en octobre 2015 et touchent l'ensemble des secteurs de l'entreprise montréalaise ainsi que tous ses bureaux au pays. Les décisions qui ont une incidence importante sur nos employés sont difficiles, mais absolument essentielles pour assurer la santé à court terme de la société, a indiqué mardi le président et chef de la direction de Page Jaune, David Eckert. Selon le professeur titulaire au département de management à HEC Montréal, Louis Hébert, deux scénarios s'offrent maintenant à Page Jaune, un redressement pour se donner du temps et penser à une nouvelle stratégie, ou un redressement permettant à la société de se refaire une beauté dans le but d'attirer un acquéreur. L'autre option est une dégradation progressive de la situation financière qui résultera en une faillite ou une vente de feu, a-t-il expliqué au cours d'une entrevue téléphonique. On n'est pas loin de la dernière chance. Et Montréal a eu droit à une hausse importante du prix de l'essence mardi matin. Le site web essencequebec.com, qui vérifie les prix moyens et les prix les plus bas de toutes les régions du Québec, rapporte un bond d'environ 16 cents du prix du litre d'essence ordinaire à Montréal à 1,33 $. En fin de nuit, certains postes d'essence affichaient encore un prix de 1,17 $ pour un litre de carburant ordinaire. À l'exception de Laval, aucune des autres régions du Québec n'avait encore emboîté le pas en début de soirée. Le meilleur prix de 1,06 $ était relevé dans les cantons de l'Est. Restez des nôtres, on poursuit avec la page, plutôt la revue de presse du Journal de Montréal. Et je vais lire quelques pages de ce journal. À tout de suite.
Nos enfants qui rêvent de sourires importants, aussi blanc que le néant et même le flou de nos 20 ans. Je t'aime depuis longtemps. Le soir, quand j'écrivais pour toi, aussi gris que nos amis et moi, et les ennuis et l'argent. Je t'aime depuis longtemps. Ton cœur. laisse parler ton cœur et aime-moi longtemps.
On vient d'entendre le plus récent extrait de Ian Kelly qui s'intitule Les ombres de son album Innocent.
À la une du journal de Montréal, quand le cœur n'y est plus, trois départs au PQ. On a les photos d'Alexandre Cloutier, Nicole Léger, Agnès Maltais et le choc des idées, les chroniques, le naufrage du PQ Richard Martineau, fatigue politique José Legault et le PQ peut-il être sauvé Mathieu Bock-Côté. Associé malgré lui à l'industrie du pot, Guy Lafleur dénonce la légalisation. Ça coûtera des milliards en frais médicaux. Lafleur ne le prend pas. Il est stupéfait que son nom soit utilisé pour mousser un projet d'usine de cannabis. L'ancienne vedette du Canadien de Montréal, Guy Lafleur, n'en revient pas qu'un homme se disant être son neveu utilise son nom pour mousser un méga projet d'usine de cannabis dans les cantons de l'Est. Pourtant, ouvertement opposé à la légalisation du pot, Lafleur n'en croyait pas ses yeux hier lorsque nous lui avons présenté un communiqué de presse émis par la firme MYM Nutraceuticals, je le dis à la française, de Vancouver. Ce sont MYM et sa filiale québécoise Canna Canada qui veulent construire 15 serres de 100 000 pieds carrés chacune à Weedon, municipalité de 2800 âmes au nom prédestiné située entre Sherbrooke et Thetford Mines. Le projet est évalué à 200 millions de dollars. Yann Lafleur, président de Canna Canada Inc., est le neveu de la superstar de hockey canadienne Guy Lafleur, vante le communiqué émis en juin dernier, sans le consentement du démon blond. Rencontré hier à Trois-Rivières en marge de l'inauguration d'une patinoire communautaire financée par la Fondation des Canadiens pour l'enfance, Guy Lafleur a vite remis les pendules à l'heure. « Je ne connais pas de Yann Lafleur. Il n'est pas de ma famille et je vous le dis. Je ne sais pas ce que mon nom fait là. » Lafleur trouve que son lointain cousin, si tel est le cas, en a fumé du bon, comme on dit en bon québécois. « C'est ridicule que quelqu'un utilise mon nom », ajoute-t-il, en faisant référence à son opinion bien tranchée sur le sujet. En effet, Lafleur a plus d'une fois déclaré être opposé à la légalisation du cannabis. Il soutient que son fils Mark, qui a eu plusieurs déboires avec la justice, a commencé avec le pot et a fini avec les drogues dures. « Le gouvernement légalise le pot pour les revenus », a-t-il répété hier. C'est la seule raison. Ça représentera des milliards en profits chaque année. Ça coûtera aussi des milliards en frais médicaux. De notre côté, c'est donc un peu échanger 85 cents pour 1 $. Contacté hier, Antonio Bramante, un ami d'Yann Lafleur, a dit que ce dernier était injoignable pour la journée. Antonio Bramante dirige une clinique d'information sur le cannabis médicinal à Montréal, la décision de la nature, qui a été déclaré illégal par le Collège des médecins au début 2017. Celui-ci nous a affirmé qu'Yann Lafleur n'était pas le neveu, mais bien un lointain cousin de l'ancien numéro 10 du CH. Il s'est dit incapable d'expliquer pourquoi l'information comme quoi il était le neveu de Lafleur se trouvait dans un communiqué officiel émis par une firme publique. Laval sort le balai avec ses salons de massage érotiques. Les salons de massage érotiques se feront de plus en plus rares à Laval. Une vingtaine d'entre eux n'ont désormais plus le droit d'opérer et la ville vient de restreindre l'emplacement des nouveaux joueurs à un simple quadrilatère. En 2014, on avait des salons de massage à proximité d'écoles, de garderies ou de maisons des jeunes, se rappelle la conseillère Sandra Demeul, responsable des dossiers de sécurité civile au comité exécutif de la ville de Laval. Ça n'avait aucun sens. C'est à partir de ce moment que la ville a mis les bouchées doubles pour contrôler les activités de ses salons de massage. Elle arrive maintenant à un tournant de sa stratégie. Des 39 établissements autorisés à Laval, la moitié se sont vus refuser leur renouvellement de permis le 31 décembre dernier. Le conseil municipal a poussé encore plus loin son nettoyage hier en stipulant que tout nouveau commerce à caractère sexuel ne pourra dorénavant s'installer que dans un petit quadrilatère de l'île. Laval limitera même à 5 le nombre de commerces à caractère érotique permis dans cette nouvelle zone. Contactés par le journal, deux travailleurs de salons de massage qui ont perdu leur permis ont déploré le manque d'informations et la rapidité avec laquelle la ville a procédé. L'un d'eux mentionne que plusieurs joueurs continuent d'opérer malgré l'interdiction. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo qui a circulé sur les réseaux sociaux avec la dernière bordée de neige. Un entrepreneur de Montréal a joué un drôle de tour aux déneigeurs et aux policiers du SPVM en sculptant une voiture au look sport. Le bolide était assez réaliste au point que des policiers se sont arrêtés pour donner une contravention à la voiture qui était stationnée durant l'opération de déneigement. Bon joueur, les agents ont tout de même laissé un faux constat où l'on peut lire « Vous avez fait notre soirée. » Le jury au procès de MMA dans l'impasse. Au sixième jour des délibérations hier, le jury composé de 8 hommes et 4 femmes a annoncé être dans l'impasse. Qu'arrive-t-il si nous n'arrivons pas à un verdict unanime, a demandé le jury au juge Gaétan Dumas, qui préside le procès des anciens employés de la Montreal, Maine and Atlantic Railway, MMA, Thomas Harding, Richard Labrie et Jean Demaître, accusés à la suite de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic en 2013. Le juge Dumas a exhorté les 12 jurés à continuer leurs efforts pour en venir à un verdict juste à propos des 3 accusés. Il les a invités à faire preuve d'ouverture et de souplesse par rapport aux arguments des autres membres, sans renoncer à leurs convictions sincères. Il a rappelé qu'un verdict unanime est souhaitable, mais pas obligatoire. « Il n'y a aucune honte à l'impasse », a-t-il exprimé. Si le consensus s'avérait impossible, le juge a soulevé la possibilité de dissoudre le jury, ce qui pourrait vouloir dire un nouveau procès. Toutefois, il ne veut pas exercer ce pouvoir à la légère. Dans une discussion hors jury hier, le juge Dumas a suggéré d'offrir au juré la possibilité de rendre un verdict à la pièce, soit pour chaque accusé, pour qui les jurés sont unanimes, même s'il n'y a pas consensus pour les 3. Les avocats de la Couronne approuvent cette proposition sur laquelle les procureurs de la Défense souhaitent réfléchir avant de l'accepter. La qualité de l'air a été gravement affectée lors des alertes de smog émises depuis dimanche. L'hiver est la saison la plus nocive pour la qualité de l'air. À certains endroits à Montréal, la concentration de polluants était si élevée que ça représentait l'équivalent de 4 à 5 cigarettes par jour, commente le météorologue Gilles Brien. Selon Environnement Canada, l'alerte de smog persistera jusqu'en mi-journée aujourd'hui. Les secteurs touchés sont l'île de Montréal, Châteauguay, La Prairie, Laval, Longueuil et Varennes. On recommande d'être exposé le moins possible à l'air extérieur, a conclu M. Brien. Un sexagénaire qui aurait déversé sa colère contre la mairesse de Montréal, Valérie Plante, par courriel, a finalement été accusé de menace de mort. Claude Meilleur, un résident de Verdun âgé de 63 ans, dis-je bien, a comparu en cour ce week-end pour faire face à une accusation de menace. Le froid fait gonfler la facture d'électricité. La demande a augmenté de 13 % en décembre par rapport au même mois en 2016. Le réveil est brutal pour les Québécois qui reçoivent leur facture d'électricité ce mois-ci. Hydro-Québec confirme que la consommation plus élevée en raison du froid peut représenter une hausse moyenne de 40 $ de plus par mois pour un bungalow. Certains clients d'Hydro-Québec signalent même que leur facture a grimpé de plus de 30 % par rapport à l'an dernier pour la période de début novembre à début janvier, une réalité que le porte-parole d'Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty, n'ignore pas. « Ça se peut », note-t-il. Les ménages québécois sont déjà bien servis en hausse cette année. Les tarifs d'Hydro-Québec augmentent en moyenne de 27 $. Et pour terminer, examen de la vue gratuit à la maternelle, nouvelle mesure annoncée pour les 0-8 ans. Québec annonce une série de mesures pour aider les enfants à partir du bon pied, dont la création d'un dossier numérique unique pour chaque nouvel élève, des examens de la vue, de même que des petits déjeuners à l'école dès la prochaine année scolaire. Ces mesures font partie de la stratégie qui vise à favoriser l'égalité des chances pour les enfants de 0 à 8 ans, dévoilée par le gouvernement Couillard hier.
C'est Le Cœur Gros qu'on écoutait. Alex Nevsky, c'est le titre de la pièce, Le Cœur Gros de son album Nos Eldorado.
Avec les journaux régionaux, les médecins inquiets pour leur patient Justine Mercier dans le droit exclusif. D'importants problèmes informatiques minent depuis 3 ans le fonctionnement des services de radio-oncologie en Outaouais, au point où les médecins spécialistes en la matière affirment que cette situation a pu compromettre les chances de survie des patients cancéreux. Des documents obtenus par le droit en vertu d'une demande d'accès à l'information font état de multiples problèmes informatiques décriés par les radio-oncologues du Centre de cancérologie de l'hôpital de Gatineau, où sont traités les patients de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue. Déjà en 2015, un état de situation dressé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, CI3SO, évoquait des lenteurs extrêmes, des connexions interrompues, des serveurs instables et des données cliniques perdues. À l'été 2016, une radio-oncologue indiquait que ces problèmes causaient des retards dans des traitements de radiothérapie. Une situation devenue intolérable car cela met en danger la survie de nos patients, écrivait-elle. Le directeur des services professionnels, le Dr Guy Morissette, a confirmé dans une lettre datée de décembre 2016 que les problèmes avaient des impacts significatifs sur l'accès aux services, les délais de traitement et l'intégralité des informations cliniques au dossier du patient. Il ajoutait que, malgré des actions concrètes, les résultats n'ont été que mitigés. Les mois ont passé. Dans une lettre datée du printemps dernier adressée aux membres du conseil d'administration du CI3SO, la présidente du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'organisation, la Dr Guylaine Thériault, réclame une intervention dans ce dossier urgent et important. Cette dernière ajoute que pour les radio-oncologues, il est clair que cette situation peut compromettre les chances de survie des patients cancéreux. La situation ne peut plus durer, insiste la Dr Thériault. À l'automne, une équipe du Centre universitaire de santé McGill, le CUSUM, a effectué deux visites à Gatineau. Le rapport de cette équipe, dont les recommandations ont été caviardées dans le document obtenu par le droit, confirme que les problèmes ont occasionné des retards à maintes reprises, voire même des annulations d'épisodes de traitement. Les experts du CUSUM se disent confiants que la réalisation du plan remédiera aux problèmes soulevés. Le président-directeur général adjoint du CI3SO, le Dr Daniel Tardif, a indiqué en entrevue qu'environ $500,000 avait été investi dans différents systèmes et que la mise à jour de l'un des logiciels problématiques en octobre avait réglé bien des choses. Des difficultés demeurent toutefois avec un autre logiciel. Le CU3SO affirme que la compagnie Varian, qui commercialise le logiciel en question, en prépare une nouvelle version. Même s'il reconnaît que parfois le logiciel gèle ou que des lenteurs sont observées, le Dr Tardif ne partage pas l'avis des radio-oncologues sur la compromission des chances de survie des patients qu'ils évoquent. « Ça n'empêche pas les traitements », affirme le Dr Tardif. « Il n'y a pas d'impact de ce qui m'est rapporté sur l'offre des services. » À cet égard, le président-directeur général adjoint du CI3SO a présenté au droit les plus récentes statistiques ministérielles démontrant que 98 % des traitements de radio-oncologie sont offerts dans les délais prescrits dans la région. Le CI3SO doit aussi travailler simultanément sur plusieurs axes en radio-oncologie. A par ailleurs souligné le Dr Tardif, en faisant référence aux problèmes de climat de travail qui règnent dans ce département. On ne peut pas penser résoudre une fois pour toutes la situation en radio-oncologie si on ne règle pas tout ça de façon globale, a-t-il insisté. Comme information, vous trouverez en annexe une copie de la lettre envoyée le 25 août 2016 au directeur des ressources informationnelles qui fait état de l'ensemble des problèmes vécus en informatique en radio-oncologie. Alors, des patients atteints d'un cancer dont le dossier devait être traité en moins de 24 heures n'ont pas obtenu le suivi nécessaire pendant plus d'un mois. Dans une lettre acheminée en juin 2016 au directeur des services professionnels du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, le Dr Guy Morissette, les radio-oncologues de la région donnent un exemple des conséquences qu'ils estiment être générées par la gestion du rôle des adjointes administratives dans leur département. Et finalement, en entrevue, le président-directeur général adjoint du CI3SO, le Dr Daniel Tardif, a fait savoir que dans ce cas particulier, l'adjointe administrative avait été remplacée, mais confirme que certains dossiers dont les informations n'avaient pas été rentrées au bon endroit par le médecin dans le système informatique n'ont pas été traités dans les délais demandés. Encore dans le droit, Danielle Leblanc, une exclusivité, 14 mois jour pour jour après son élection, la députée d'Ottawa-Vanier, Nathalie Desrosiers, prendra du galon mercredi alors qu'elle sera nommée ministre des Richesses naturelles et des forêts. À l'occasion d'un remaniement ministériel, a appris le droit en primeur. À moins de 5 mois des élections provinciales prévues le 7 juin, celle qui occupait les fonctions d'adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie et des Affaires intergouvernementales hérite du ministère qui était dirigé par Catherine McGarry, qui hérite du portefeuille des transports. Le caucus libéral de la capitale fédérale comptera donc dorénavant 4 ministres, Mme Desrosiers, rejoignant ses collègues Marie-France Lalonde, Affaires francophones, Sécurité communautaire et Services correctionnels, Bob Chiarelli, Infrastructure, et Yazir Naqvi, procureur général au sein du cabinet Wynne. Le salaire minimum à 12 $, c'est dans le soleil, une exclusivité. Des employeurs grinceront des dents, mais le salaire minimum bondira cette année de 75 cents l'heure au Québec. Il sera porté à 12 $. Le salaire minimum passera de 11,25 $ à 12 $ l'heure le 1er mai, a appris le soleil. La hausse du salaire minimum au Québec n'a jamais été aussi importante que celle à venir. Des associations d'employeurs le noteront certainement. Les hausses ont parfois été de 50 cents l'heure. La plupart du temps, elles ont cependant été de 25 cents, voire de 15 cents. Certaines années, le salaire minimum a été gelé. L'an dernier, après avoir annoncé une hausse de 50 cents pour 2017-2018, la ministre du Travail, Dominique Vien, avait donné des indications de ce que pourrait être le salaire minimum au cours des prochaines années. Elle avait affirmé que si l'économie continuait d'afficher une bonne performance, le taux général du salaire minimum pourrait par exemple grimper de nouveau de 50 cents l'heure en 2018-2019, ce qui l'aurait porté à 11,75 $. En conférence de presse, elle avait fait savoir que son objectif était de faire en sorte que le salaire minimum corresponde à la moitié du salaire horaire moyen au Québec en 2020-2021 et qu'il demeure à ce niveau par la suite. Or, la croissance économique a été plus forte que prévu. Le salaire moyen pour l'année en cours sera plus élevé qu'anticipé. D'après le ministère des Finances du Québec et les instituts statistiques, il sera de 24,25 $ et non pas de 23,73 $ comme prévu. C'est ce qui expliquerait que le nouveau salaire minimum ne sera pas fixé à 11,75 $ comme on pouvait le croire, mais à 12 $. Dans le Nouvelliste, Mathieu Lamotte, la ville de Trois-Rivières a finalement obtenu le feu vert mardi soir pour mettre en branle le chantier du nouveau Colisée sur le site du District 55. Le mandat de construire au coût total de 49 288 000 $, taxes inclus, le nouvel amphithéâtre d'une capacité totale de 5 500 personnes doté de deux glaces a été confié au groupe TEQ, T-E-Q, une entreprise en construction comptant 30 années d'expérience dans le domaine. La saga qui a fait couler énormément d'encre et qui a soulevé les passions à plusieurs reprises au cours des dernières années a finalement connu un dénouement lors de la première séance régulière du Conseil municipal trifluvien de l'année 2018. L'adjudication du contrat a été adoptée à la quasi-unanimité. Seul le conseiller du district des Rivières, Claude Ferron, a voté contre. Vérification faite dans la tête d'un homard, Jean-François Cliche, dans le soleil. Les vertébrés et les décapodes marcheurs, comme le homard, doivent être étourdis au moment de leur mise à mort. Si l'étourdissement n'est pas possible, toutes les dispositions utiles doivent être prises pour réduire un minimum les douleurs, les souffrances et l'anxiété, lit-on dans une ordonnance émise récemment par le gouvernement suisse et qui interdit de plonger les homards vivants dans l'eau bouillante. Cela implique donc que les crustacés seraient capables de douleurs, de souffrances et d'anxiété. C'est la base de cette décision. Alors, est-ce que c'est vrai? Si je me brûle sur le poil, ça va me faire mal, mais ça peut aussi me fâcher ou me donner envie de pleurer, explique le neurochercheur de l'Université de Sherbrooke, Serge Marchand. On dissocie souvent les composantes sensorielles et émotionnelles, mais elles sont activées en même temps dans le cerveau. Et ce sont toutes ces émotions-là ensemble qui vont faire que je vais bien apprendre qu'il ne faut pas se mettre la main sur le poêle, même si je ne pense pas qu'il est allumé. Car la douleur sert à ça, permettre à l'individu d'adapter son comportement de manière à éviter les blessures. Désagréable, mais très utile. À suivre! Thank you.
see without my eyes. This time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound.
De la bande originale du film Call Me By Your Name, c'était l'américain Soft John Stevens avec la très douce et mélodique Mystery of Love.
Et ajout d'informations au sujet de cette magnifique chanson, elle fait partie de la bande originale du film Call Me By Your Name, Appelle-moi par mon nom, c'est bien cela. C'est la version française. Alors, je poursuis aux actualités culturelles en parlant encore de cinéma. Cette fois, l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision a dévoilé hier matin au Centre PHI les productions et artisans finalistes au prix Écran canadien 2018. Encore une fois, les créateurs et concepteurs québécois font très bonne figure. Luc Boulanger en parle, il en est question dans les journaux montréalais et québécois. Made in Québec, parmi les 15 films qui récoltent le plus de sélections, 11 sont des productions québécoises. Au sommet de la liste, on retrouve Ava de Sadaf Fouroudji et Hochelaga, Terre des âmes de François Girard. Toutefois, ce dernier ne figure pas dans les catégories du meilleur film ni des meilleures interprétations et réalisations. Le long métrage pourrait toutefois repartir avec une statuette pour sa direction artistique, François Séguin, ses images, Nicolas Bolduc, ses costumes, Mario d'Avignon, ses maquillages, Catherine Cazot, ou encore pour la musique originale, le son, le montage sonore ou les effets visuels. Deuxième vie pour la petite fille, Simon Lavoie s'est réjoui de voir que son œuvre « La petite fille qui aimait trop les allumettes » figurait dans cette catégorie, donc 7, le chiffre 7, dont celle du meilleur film. Le film est passé vite dans les salles, 2 semaines seulement en novembre dernier, a expliqué le réalisateur à la presse. Les prix Écran canadien vont donc lui donner une nouvelle visibilité. De plus, l'annonce coïncide avec la sortie numérique du film sur Illico, Bell, iTunes. Et on le présentera fin janvier au Festival de cinéma de Göteborg, en Suède. C'est Le cœur qui meurt en dernier d'Alexis Durand-Bro, Les rois mongols de Luc Picard, All You Can Eat Bouddha, Diane Lagarde et Les affamés de Robin Aubert font aussi partie du peloton québécois qui se rendra à Toronto en mars. Deux actrices, 70 ans d'écart. La grande Denise Filiatro est citée dans la catégorie de l'interprétation féminine pour son rôle de vieille mère indigne dans l'adaptation du roman de Robert Lalonde, C'est le cœur qui meurt en dernier. Gabrielle Sabourin est aussi finaliste chez les acteurs. À 87 ans, je ne pensais plus jamais être nommée dans aucun gala, nous a confié la comédienne jointe en Floride. Madame Filiatro fait un retour au cinéma dans un premier rôle avec ce film où elle partage la vedette avec sa fille Sophie Lorrain. Elle a déjà gagné un prix Génie en 1982 pour son interprétation dans Les Ploufs. On lui a appris que la jeune Marine Johnson, 17 ans durant le tournage de La Petite Fille, était sélectionnée à ses côtés. Les autres actrices finalistes sont Sally Hawkins, qui joue la peintre néo-écossaise Maud Lewis dans Moody, Shirley Anderson pour Never City, Never Still, et Mahur Jabari pour le film Ava. La soirée des prix Écran canadien aura lieu le 11 mars. Elle sera diffusée sur les ondes de CBC en direct du Sony Center dès 20h. La petite révolution du prince Mohamed Ben Salman continue de bouleverser le monde des arts dans le royaume Wahhabit. Le cirque Éloise se trouve en ce moment même à Riyad, où il présentera Circopolis du 18 au 20 janvier devant un public mixte. L'aventure d'Éloise en Arabie Saoudite a débuté la semaine dernière dans la ville de Daman, où la pièce acrobatique Circopolis a été présentée 3 soirs du 11 au 13 janvier dans un chapiteau de 2500 places plein à craquer, dominé par un public familial. Même si la distribution masculine a été augmentée, son caractère mixte a été conservé, 11 hommes, 4 femmes. Le plus étonnant est que le spectacle a été présenté devant un public mixte, les hommes seuls, ayant tout de même été séparés des familles, a précisé le directeur artistique et général d'Éloise, Jeannot Pinchot. C'est aujourd'hui que le président des États-Unis, Donald Trump, doit remettre les prix de ses Fake News Awards, si l'on en croit ce qu'il a annoncé sur Twitter le 7 janvier dernier. Pour se moquer de l'idée du président, quelques animateurs d'émissions de fin de soirée ont fait campagne pour décrocher les grands honneurs. Parmi eux, Stephen Colbert, qui s'est offert une publicité géante à Times Square. Alors on peut lire sur cette publicité « Dear Mr. President, for your consideration for the most dishonest and corrupt media awards of the year. » Et ensuite, je ne peux plus lire, mais c'est l'animateur Stephen Colbert qui est sur cet écran géant et qui se moque d'une certaine façon de ce festival de fake news et surtout de Donald Trump. « Désormais, un interprète va y réfléchir à deux fois avant d'ajouter un film de Woody Allen à son CV. Après Griffin Newman et Rebecca Hall, c'est au tour de la révélation du film Call Me By Your Name, l'acteur franco-américain Timothée Chalamet, de prendre ses distances avec le réalisateur de Manhattan. Le comédien a annoncé hier qu'il allait verser le cachet reçu pour sa participation au dernier film de Woody Allen, A Rainy Day in New York, à des associations de soutien aux victimes de viols et de harcèlement. « Je ne veux pas tirer profit de mon travail sur ce film. Je découvre avec le temps qu'un bon rôle n'est pas le seul critère pour accepter un boulot », a déclaré le comédien de 22 ans sur son compte Instagram. « Je veux me tenir aux côtés d'artistes courageux qui se battent pour que les gens soient traités avec le respect et la dignité qu'ils méritent. » Festival Comédie A à Québec. Pour sa 19e présentation, le Festival Comédie A, anciennement Grand Rire, convie de vieux complices et de nouveaux chouchous à la barre de ses galas. Patrick Huard, Phil Roy, Jean-Michel Anctil, Véronique Cloutier, le duo composé de Mario Tessier et de Véronique Claveau, ainsi que Fabien Cloutier animeront tour à tour des soirées au Palais Montcalm à Québec du 9 au 18 août. Les créanciers de la Biennale refusent son offre. Tout indique que l'événement d'art contemporain devra déclarer faillite. C'est dans le Devoir d'aujourd'hui. La fin approche. Les 31 créanciers à qui la Biennale de Montréal doit de l'argent ont reçu avant Noël une proposition de remboursement couvrant 4,5% des sommes qui leur sont dues, a appris le Devoir. Au moins deux des principaux créanciers ayant refusé, une procédure d'insolvabilité semble maintenant inévitable. Dans une lettre transmise aux créanciers le 21 décembre 2017 et obtenue par le Devoir, la direction de la Biennale écrit qu'elle n'est pas en mesure d'honorer l'ensemble de ses créances. Le total des créances s'élève à 259 000 $, alors qu'il reste 11 600 dans les coffres, d'où l'offre du règlement à 4,5. Au total, 31 créanciers sont concernés, tous des fournisseurs de services. Le plus gros créancier de la liste, la compagnie Paccard, spécialisée en transport d'œuvres d'art, n'a pas accepté la proposition. Dans une réponse transmise au président du conseil d'administration de la Biennale, Cédric Bisson, le président de Paccard, Pierre Béchard, se dit dégoûté de la façon dont sont traités les fournisseurs dans cette affaire. La proposition est ainsi jugée malhonnête. La Biennale a été mise en place en 1998 par le Centre international d'art contemporain de Montréal qui a produit les 7 premières éditions. La Biennale de Montréal est ensuite devenue en 2013 un organisme à but non lucratif indépendant. Un partenariat avec le Musée d'art contemporain de Montréal avait alors été signé pour la présentation de 3 événements. Le CA de la Biennale avait déjà annoncé l'été dernier que l'édition 2018 était annulée. Une réflexion en profondeur sur l'avenir de la manifestation est en cours. Le dernier roman de Marie-Claire Blais, qui clôt le cycle de 10 livres entamés en 1995 avec « Soif », écrit au pluriel, se termine sur un mot « espoir » au pluriel. Pourtant, les personnages qui traversent cette saga tumultueuse font face à un monde à la dérive. Menace d'une catastrophe nucléaire, racisme et intolérance sexuelle et religieuse, violence, disparité économique et sociale. En entrevue dans un café de la rue Saint-Denis à l'occasion du lancement de ce livre intitulé « Une réunion près de la mer », toute menue dans sa chemise à carreaux et son veston de cuir, les yeux soulignés de noir, Marie-Claire Blais sourit. « C'est vrai que nous sommes à une époque où il y a beaucoup de mal et beaucoup de violence. C'est très difficile à vivre pour ceux qui sont sensibles à la souffrance des autres. Mais en même temps, l'espoir, c'est fondamental. Ça nous fait vivre. C'est notre instinct d'éprouver la joie de vivre et de survivre à tous les malheurs, même si c'est difficile. Malgré le passage des ans à 78 ans, Marie-Claire Blais n'a rien perdu de cette ferveur qui lui fait appeler de toutes ses forces un monde meilleur dans ses livres, comme dans la vie. Marie-Claire Blais semble avoir tout cédé à la littérature.
Ton fusil brave. j'agrippe à moi ce trop plein d'envie de toi pour tenir tout ce temps avant que mon corps puisse s'étendre à toi, s'éterniser doucement. Je
On vient d'entendre Chantal Archambault avec la pièce « Tombé frêle ».
Segment libre pour terminer cette émission. Le quotidien des quotidiens, c'est toujours Hélène Denis qui vous accompagne. Et je vous disais un petit peu plus tôt à suivre à propos de l'article sur le homard. Et j'ai décidé de lire cet article parce que c'est un petit peu frustrant de finir sans avoir vraiment la conclusion de cette histoire. Dans la tête d'un homard, point de suspension, c'est Jean-François Cliche dans Le Soleil, pardon, qui fait une vérification. Je reprends. Donc, les vertébrés et les décapodes marcheurs, comme le homard, doivent être étourdis au moment de leur mise à mort. Si l'étourdissement n'est pas possible, toutes les dispositions utiles doivent être prises pour réduire à un minimum les douleurs, les souffrances et l'anxiété. Lit-on dans une ordonnance émise récemment par le gouvernement suisse et qui interdit de plonger les homards vivants dans l'eau bouillante. Cela implique donc que les crustacés seraient capables de douleurs, de souffrances et d'anxiété. C'est la base de cette décision. Alors, est-ce que c'est vrai? Les faits. Si je me brûle sur le poêle, ça va me faire mal. Mais ça peut aussi me fâcher ou me donner envie de pleurer, etc., explique le neurochercheur de l'Université de Sherbrooke, Serge Marchand, aujourd'hui directeur scientifique du Fonds québécois de recherche en santé. On dissocie souvent les composantes sensorielles et émotionnelles, mais elles sont activées en même temps dans le cerveau. Et ce sont toutes ces émotions-là ensemble qui vont faire que je vais bien apprendre qu'il ne faut pas se mettre la main sur le poêle, même si je ne pense pas qu'il est allumé. Car la douleur sert à ça, permettre à l'individu d'adapter son comportement de manière à éviter les blessures, désagréables mais très utiles. Il y a un certain nombre de conditions préalables pour qu'on considère un animal capable de souffrir, ou du moins pour que la possibilité théorique qu'il souffre reste ouverte, parce qu'en pratique, dans ce dossier, les faits et leur interprétation sont deux choses bien distinctes, comme on s'apprête à le voir. Mais commençons par les faits avérés. Pour pouvoir envisager la notion de douleur chez un animal, il faut d'abord qu'il ait des terminaisons nerveuses spécialisées dans la perception des signaux désagréables, brûlures, coupures, chocs mécaniques, etc. Les crustacés en ont. Ces nerfs-là doivent aussi envoyer leurs signaux au système nerveux central ou à ce qui sert de cerveau à l'animal. S'ils ne le font pas, c'est la preuve que les messages de ces nerfs sont inconscients. Mais ces connexions existent chez le homard. Le « cerveau » entre guillemets de l'animal doit en outre réagir à ces signaux et une étude parue en 2014 dans Science a établi que les écrevisses qui subissaient des chocs électriques avaient plus de sérotonine, molécule associée notamment au stress et à l'anxiété chez les humains, dans le cerveau et plus de glucose dans le sang, ce qui est considéré comme une réponse de stress. L'animal doit aussi changer son comportement, comme protéger un membre blessé et ou apprendre, par exemple, à éviter un endroit dans sa cage où il reçoit des chocs électriques, et les crustacés sont capables des deux. Et ces réactions-là doivent être diminuées quand on administre des analgésiques aux animaux. C'est le cas du homard quand on lui donne de la morphine, alors encore qu'il n'est pas clair si c'est à cause d'un effet antidouleur ou d'un engourdissement général, lit-on dans une revue de la littérature scientifique publiée en 2014 dans Animal Behavior. Maintenant, la question difficile est-ce suffisant pour considérer le homard comme étant capable de douleur ou n'est-ce rien de plus que la mécanique derrière un ensemble de réflexes inconscients? Et la seule chose sur laquelle tout le monde s'entend, c'est qu'on n'en sera jamais complètement sûr. Pour des chercheurs comme Éric Troncy, spécialiste de la douleur animale à l'Université de Montréal, oui, c'est suffisant, même si ce n'est pas une preuve formelle. Avec ces éléments-là, pour moi, ça devient très difficile de dire que ces animaux-là ne ressentent pas la douleur, dit-il. Quand on a des signes de comportement modifiés comme ceux-là, on se doit d'être prudent et leur donner le bénéfice du doute. Cette idée de doute raisonnable revient d'ailleurs souvent dans les travaux qui soutiennent l'idée d'une souffrance chez les crustacés puisque tous admettent que la preuve nous échappe. Mais pour d'autres, comme le neurochercheur de l'Université Laval, Yves De Coninck, ces faits-là sont beaucoup moins convaincants qu'ils en ont l'air. Même des limaces peuvent être entraînées à éviter un endroit où elles reçoivent des stimuli désagréables, dit-il. Or, elles n'ont pas de cerveau à proprement parler, mais simplement un ganglion neuronal, un petit amas de quelques neurones, ce qui les rend absolument et manifestement dénués de conscience. Et sans conscience, il n'y a pas de souffrance possible. En fait, poursuit M. De Coninck, on peut écrire un programme informatique qui permettrait à un robot d'avoir les mêmes comportements d'évitement et d'apprentissage, ce qui ne signifierait pas qu'une machine est capable de souffrir. Bien qu'il existe des invertébrés qui ont des capacités mentales relativement étonnantes, les pieuvres en particulier, le homard n'en fait pas partie, selon M. De Coninck. Quand on dit que les homards ont un système nerveux central, personnellement, je conteste ça. Ils n'ont que des ganglions, des agrégats de cellules nerveuses et en termes de complexité, c'est-à-dire c'est à des années-lumière non seulement de notre cerveau, mais aussi de notre moelle épinière. Et la moelle épinière, c'est un système de réflexe et de nociception, qui signifie perception d'un stimulus désagréable mais sans composante consciente ou émotionnelle, illustre-t-il. Or, sans conscience et sans émotion, on ne peut pas parler de douleur, tranche M. De Coninck. À cela, cependant, des gens comme M. Troncy répondent que ce n'est pas parce que le homard n'est pas doté d'un cerveau comme le nôtre qu'il ne souffre pas. Ces sensations peuvent être situées ailleurs, dans un endroit qu'on n'a pas encore découvert. Verdict, pas clair. L'argument le plus dur, celui dont on est le plus sûr, l'absence de structure cérébrale permettant la conscience chez le homard, plaide pour l'absence de douleur chez le homard, alors que les éléments qui suggèrent qu'il souffre reposent davantage sur l'interprétation de son comportement et sur ce qu'on ne connaît pas, des structures à découvrir chez le homard, ce qui est plus faible. Mais si un simple doute raisonnable peut justifier l'interdiction d'ébouillanter les homards, cela peut suffire. Rendu là, ce n'est plus une question de fait ou de données, mais de sensibilité.
Homard le pacha de la mer, homard le bleu, homard le rouge, homard le nageur à l'envers, homard si tu remues tu bouges, homard ermite des rochers, homard mauvais garçon mon prince, homard la gloire des marchés, homard mon seigneur de la pince.
Moratoire demandé pour sauver les maisons shoebox, c'est dans la presse d'aujourd'hui, alors que 6 maisons de type shoebox sont menacées par le pic des démolisseurs dans Rosemont. Héritage Montréal demandera aujourd'hui un moratoire municipal sur la destruction de ces petites maisons ouvrières typiquement montréalaises, a appris la presse. L'organisme doit rencontrer la responsable du patrimoine de l'administration au cours de la journée et formulera cette demande. Quelques heures plus tard, ce soir, un comité de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie déterminera le sort de 4 nouvelles maisons shoebox visées par des demandes de démolition. 2 autres maisons ont déjà reçu leur arrêt de mort après une réunion semblable survenue à la mi-décembre. Les boîtes à chaussures sont de minuscules maisons bâties notamment au début du 20e siècle, alors que des quartiers comme Rosemont se développaient rapidement et que des ouvriers aux moyens modestes s'y installaient. Elles ont souvent été construites avec des matériaux de fortune et sont flanquées de duplex ou de triplex. On n'en connaît pas le nombre exact à Montréal. Ces maisons sont très significatives car elles sont le premier accès à la propriété de Montréal pour les classes populaires, a indiqué David Hanna, professeur au département d'études urbaines de l'Université du Québec à Montréal, à la presse en 2014. Or, ces petites maisons occupent des terrains à présent très convoités dans des quartiers populaires auprès des jeunes familles. Plusieurs y voient des occasions de remplacer ces shoebox par des immeubles de 2 ou 3 étages en phase avec le reste de la rue. La multiplication de ces projets inquiète Dinou Boumbarou, qui dirige Héritage Montréal. Si on n'a pas de moratoire, les démolitions vont s'accélérer et on va avoir un beau cadre réglementaire pour protéger une chose qui n'existera plus parce que l'espèce sera disparue, dit Dino Bumbaru d'Héritage Montréal. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du 17 janvier. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable journée. Si vous nous écoutez en direct, les paractualités suivent dans un instant.